l'école en question, question d'école.
Nous voulons être Dieu dans la bonne condition. Nous voulons être Dieu dans la bonne condition.
Radio Sénégal International 92.5 pose les débats.
Des parents, des élèves, des ONG qui discutent, qui règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas, on ne fera pas deux sessions au Sénégal.
L'école en question, question d'école, Radio Sénégal International fait la lumière.
Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Radio Sénégal et à votre émission École en question, l'émission éducative du journal parlé de Radio Sénégal qui a le plaisir d'accueillir ce jour un jeune écrivain, Amadou Sorna. Bonjour.
Bonjour Aruna.
Et merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Sénégal.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'avoir l'opportunité de passer dans ces émissions aussi importantes, que, en ce sens qu'elles traitent des questions relatives à l'école et à l'éducation.
Voilà, vous êtes le bienvenu en tout cas. Vous êtes un jeune enseignant, professeur de lettres d'anglais, titulaire d'une licence d'anglais avec un certificat de spécialisation en civilisation britannique sous les feux de l'amour. Votre premier roman paru aux éditions Artige. Ce livre parle bien sûr de l'amour et nous raconte l'histoire d'un jeune enseignant, Modou, qui tombera sous le charme d'une de ses anciennes élèves, Zahra, avec la ferme intention d'en faire son épouse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Sorna, on va s'intéresser à la récente actualité au sein de l'école sénégalaise. Des élèves qui s'en prennent à des enseignants, à Sangué, à Sindia, ce sont des élèves qui également incendient la salle des profs, des scènes similaires à Anne, ici à Dakar. Quelle analyse finalement faites-vous de cette violence-là?
Merci Monsieur Diouf. Je dirais que c'est une situation très déplorable, ça il faut le dire, mais il faut aussi reconnaître que c'est une situation qui est très symptomatique de la perte des valeurs auxquelles nous assistons dans notre société. Il y a une véritable dégringolade des valeurs cardinales qui fondent notre background et notre héritage culturel. C'est une défaillance de l'éducation, un très grand manquement à certaines valeurs vraiment qui régissait parfois ou bien d'entendre notre attitude et notre comportement.
Et justement, comment selon vous en est-on arrivé à ce stade-là?
Oui, c'est une défaillance de l'éducation. L'éducation, quand je le dis, je ne parle pas seulement de l'éducation que les enfants reçoivent à l'école, mais je parle aussi de l'éducation qu'ils devraient recevoir de leur famille et de la société. Ce type de comportement était tout à fait inimaginable. Maintenant, comment en est-on arrivé là? Ça, c'est cette situation que l'on voit à l'école. Ce n'est pas un cas isolé. On ne pourrait pas le considérer comme un cas isolé. Parce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la société sénégalaise, notre société, nous sommes dans une société qui devient de plus en plus violente. Nous assistons toujours à des scènes de violence, aussi bien du point de vue comportemental que du point de vue verbal. Nous sommes une société qui tend à devenir de plus en plus violente. Donc c'est juste pour dire que ces cas de violence que nous avons notés à l'école ces derniers jours ne peuvent pas et ne devraient pas du tout être considérés comme des cas isolés.
Des cas isolés. Vous, en tant qu'enseignant, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites quelque part aussi que vous êtes aussi responsable de ce qui se passe?
Oui, d'une part. D'une part, les enseignants peuvent être, ou bien on peut leur donner leur part de responsabilité. Et comme je le dis, l'enseignant a un rôle aussi d'éducation. Il doit contribuer à l'éducation des enfants. L'enseignant a la chance, comme je l'ai dit, peut-être on y reviendra dans le livre, nous avons la chance, nous enseignants, d'agir sur des âmes en devenir. Nous agissons sur ces enfants-là pour les modeler, pour agir de façon très positive sur leur comportement et sur leur éducation. Donc, pour revenir à la question, dans ces dérives comportementales, j'allais dire, nous avons une très grande part de responsabilité.
Également, les parents d'élèves qui, semble-t-il, ont démissionné également.
Oui, la démission, elle est réelle, elle est palpable, même si on devrait s'en désoler. Les parents d'élèves ont complètement démissionné de l'éducation des enfants. Les enfants sont laissés à la merci des tics, de la télévision, d'Internet, des téléphones portables. voilà, il y a cette démission qui est très déplorable des parents.
Justement, cette société-là ne cesse d'évoluer, comme vous l'avez dit, au fil des années, et ce, sous quelque angle que l'on puisse l'observer. Est-ce à dire que nous payons aussi pour cette évolution-là?
Oui, nous sommes en train de payer pour cette évolution, parce que l'évolution, ça implique une certaine ouverture vers d'autres cultures, vers d'autres réalités exogènes. Maintenant, l'ouverture doit être précédée par un certain enracinement dans nos valeurs, dans les valeurs cardinales qui constituent le background culturel de la personne. Avant de s'ouvrir, on doit être bien préparé à cette ouverture-là. En quoi faisant? En étant bien assis dans nos valeurs culturelles, pour que les autres valeurs qu'on va découvrir ne nous transforment pas de façon négative. Pour que l'on puisse tirer du bon de l'autre en l'associant à ce que nous avons de bon, afin de devenir une personne meilleure.
Et ça nous rend meilleur. Alors, vous avez choisi de passer par l'école qui constitue, selon vous, le socle de toute société parce qu'étant un lieu de formation, d'éducation et d'échange. Alors, est-ce que l'école sénégalaise joue toujours ce rôle-là?
Oui, je donnerai une réponse partagée. D'une part, oui, l'école joue toujours ce rôle en participant à l'éducation des enfants. Parce qu'il faut l'avouer, les enseignants sont très dévoués à la tâche. Ils participent tant bien que mal à l'éducation des enfants. Ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent, autant pour moi. Mais l'éducation des enfants ne devrait pas seulement être confiée à l'école. Les enfants reçoivent une éducation tripartite. Une part assurée par la société, une deuxième part de leur éducation qui doit leur être donnée par la famille et qui pour moi constitue la plus importante, et une troisième part qu'ils doivent recevoir de l'école. Et maintenant, ces trois parties-là, ou bien ces trois phases de l'éducation des enfants, s'il y a une ou deux parties qui sont défaillantes, la seule partie que l'école ne pourra pas assurer la totalité du travail. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la démission des parents, elle est réelle.
Alors, l'actualité, c'est aussi la tricherie aux examens scolaires. Et apparemment, on dirait que tous les moyens sont bons pour passer, en tout cas pour certains.
Oui, là aussi, je dirais que ce n'est pas un cas isolé. Ça, c'est le reflet parfait de la société, malheureusement. Et nous sommes désolés de le lire, mais c'est le reflet parfait de la société sénégalaise, de notre appréhension de la réussite. Si vous observez la société, dans quelque domaine que ce soit, souvent vous voyez des gens entreprendre des actions tout en faisant fi de l'éthique, de certaines valeurs qu'il faudrait conserver, d'un certain comportement éthique qu'il faudrait adopter, pour aboutir à un certain objectif. Malheureusement, les élèves sont aussi... ce n'est qu'un prélèvement que l'on fait, pour parler comme des scientifiques. Quand on fait un prélèvement d'une solution, ce que l'on obtient dans la solution prélevée, c'est seulement le reflet de la solution initiale. C'est pour dire que ces élèves-là qui sont pris en flagrant délit de tricherie, ce ne sont pas des élèves qui nous viennent de la France ou qui viennent des États-Unis. Ils sont issus de cette société. Mm-hmm. Donc, ils ne sont que le reflet de la société.
Et à leur décharge, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, est-ce qu'aussi cette pression sociale-là, ce poids-là, n'entraîne pas ces jeunes enfants à vouloir coûte que coûte réussir?
Oui, parfois. Parfois, oui. Il y a un certain discours qui est tenu par les parents et par la société même à l'égard de ces enfants-là. On a un peu dénaturé les choses. Par exemple, vous avez un enfant qui fait un examen. Il faut lui faire savoir que lui, ce qu'il peut faire, ses prérogatives se limitent aux efforts. Il peut apprendre, faire des efforts, faire ce qu'il peut. Mais quand même, la réussite dépend entièrement et exclusivement de la divinité. Mais quand même, par exemple, quand on prend l'échec et on le considère comme une honte, je peux le dire ainsi, tout en tenant un discours assez radical vis-à-vis de l'élève, souvent, il a tendance, s'il ne comprend pas très bien les enjeux et s'il n'a pas peut-être une morale très forte, souvent, il a tendance à user de tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs.
Amadou Sorna, invité de École en question, l'auteur de « Sous les feux de l'amour », roman paru aux éditions Artige. Alors, Sous les feux de l'amour raconte l'histoire de Modou. C'est le personnage principal de ce roman. Un jeune enseignant qui fut affecté dans un village en région centre du pays. Il transportera à l'école les règles d'éthique que lui a toujours enseigné son défunt papa. Parlez-nous d'abord de cette relation-là, père-fils.
Cette relation père-fils, telle que je l'ai décrite dans le livre, c'est ce que je vois, moi, comme la bonne relation qui doit exister entre un parent, de tout court, que ce soit le père ou la mère, et son enfant. C'est-à-dire, si vous regardez bien le livre, le papa de Maud n'est plus vivant. Et malgré son absence, malgré tout ça, Maud n'a jamais cessé de se rappeler les mots qu'il lui disait. Ça, pour moi, c'est la bonne éducation. La bonne éducation, c'est celle qu'on donne à son enfant, et qui lui permet, même s'il ne nous voit plus, qui lui permet d'user de nos mots, des valeurs qu'on lui a transmises, des mots qu'on lui disait, de cette éducation qu'on lui a donnée pour aller à l'assaut de la vie, pour bien se comporter. Donc, il y a cette très forte relation-là qui existe entre le père et le fils, bien que le père ne soit plus là. Ça dénote de la force de l'éducation que le père a donnée à son enfant.
Des valeurs transmises. À part le papa, l'enseignant, finalement, selon Mondou, prépare l'individu à aller à l'assaut de la vie, à ne voir chez l'autre que la nature humaine et à interagir convenablement avec tout autre individu qu'il aura à rencontrer. Est-ce que c'est cette quête-là, ces interactions, bref, ces rencontres-là, est-ce qu'elles ont toujours cours dans ce milieu scolaire? Je veux dire, est-ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui supplantées par d'autres valeurs?
Oui, elles sont toujours réelles à l'école, je peux dire. Parce que l'enseignant, il a un impact très déterminant sur ses apprenants. Parce que comme je l'ai dit, l'enfant, il a principalement des héros, peut-être ses parents et son enseignant, bon, surtout son maître d'école. Donc, ces interactions-là, elles sont réelles et elles existent toujours à l'école. Et ça, ils ont aussi le don, souvent, d'impacter ou bien d'influencer de façon très déterminante la vie et le comportement des apprenants.
Seulement, il faut le dire, l'éducation qui est une élévation morale et intellectuelle des hommes ne saurait décharger la famille de la part de responsabilité qui lui revient tout en laissant tout à l'école. On en parlait tantôt, M. Amadou Sorna. Ça également, c'est une erreur que nous commettons en tant que parents d'élèves.
Oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure dans une question précédente, que les enfants, ils reçoivent une éducation tripartite. Il y a celle qui leur est donnée par la famille, la plus importante, ce que moi je considère comme la plus importante, l'autre type d'éducation qu'ils reçoivent à l'école, l'autre partie de l'éducation qu'ils reçoivent à l'école, et l'autre qui leur est donnée par la société. Et maintenant, quand la famille démissionne de l'éducation des enfants, ça impacte de façon très négative sur le comportement de ces derniers. Parce que, moi je le dis, l'éducation la plus importante, les enfants la reçoivent à la maison. C'est cette éducation-là qui leur enseigne certaines valeurs, les bonnes manières, comment se comporter vis-à-vis des autres. Cette éducation-là, c'est l'éducation qu'ils doivent recevoir de la maison. Mais bon, de la famille, Mais quand les parents démissionnent, ça se voit naturellement sur le comportement
justement,
des enfants.
D'habitude, l'enfant avait deux héros, son père, sa mère, en tout cas ses parents et son maître d'école. Aujourd'hui, on va être prudent, c'est vrai qu'il ne faudra pas généraliser, mais le fait est que nos élèves ont d'autres références. Aujourd'hui, quelle peut être l'incidence de ce changement de référence dans ce que nous constatons avec nos élèves?
Oui, l'incidence, est, je pense qu'on la voit déjà. Tout à fait, en début d'émission, vous avez mentionné des cas de violence qu'on a notés cette année dans certaines localités. Des élèves qui ont martyrisé leurs enseignants, d'autres ont brûlé leur blouse à la fin de l'année, d'autres ont brûlé la salle des profs. Ça, c'est le résultat immédiat de changement de référence, si je peux l'appeler ainsi, changement ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est que les élèves ou les enfants, de façon générale, ils sont en mal, ils manquent de référence ou bien ils ont comme complètement changé de référence. Et là, cela va me permettre de revenir sur un aspect qui me paraît très important. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la part de responsabilité de l'État. Dans quel sens? Les enfants, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont à la merci des TIC, de l'Internet, des téléphones portables et de la télévision surtout. Étant conscient de cet état de fait, l'État devrait saisir cette opportunité pour agir un peu sur le changement, sur un changement très radical de l'espace audiovisuel. C'est-à-dire en quoi faisant, en intégrant ou bien en ayant un œil très regardant sur les programmes qui sont proposés aux enfants. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, et ce qui a, ça a radicalement changé le comportement des enfants. Ce qu'ils regardent à la télé surtout, mm-hmm. et sur Internet. Voilà, ça a un impact très déterminant, même si parfois on le néglige, ça impacte véritablement le comportement des enfants.
C'est important. Alors, je le disais en début d'émission, votre roman parle d'amour. Nous allons nous intéresser à cette union-là, Moudou et Zahra. D'abord, selon vous, est-ce concevable aujourd'hui cette union, une union entre un enseignant et une élève, éthiquement parlant?
Oui, comme je l'ai dit dans le livre, pour moi, il n'y a rien de plus normal qu'un enseignant tombe amoureux de son élève. Ça, je l'ai dit. Et je m'explique. Et je dis que la légitimité de cet état de fait, par exemple, le fait qu'un enseignant puisse tomber amoureux de son élève, ce qui le légitime ou bien ce qui pourrait le justifier, c'est l'attitude et les objectifs que l'enseignant se fixe vis-à-vis de cet élève-là. C'est-à-dire, en tombant amoureux de cet élève ou bien de son élève, quand l'enseignant dit qu'il aime son élève, quels sont les objectifs, quels sont ses objectifs vis-à-vis de cette personne-là et quelle attitude il va adopter vis-à-vis de cet élève. C'est seulement ces deux paramètres-là qui pourront justifier, en tout cas légitimer ou rendre illégitime ou non éthique ce type de relation qui peut exister entre un enseignant et son élève.
Mais on sait qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas Moudou.
Oui, ça c'est une réalité. Mais bon, moi, j'ai décrit Moudou comme le prototype d'enseignant, l'enseignant modèle, le type d'enseignant qu'il nous faut dans notre société pour contribuer positivement et véritablement et de façon très déterminante sur l'éducation.
Mais moi, je me dis, alors, malgré toutes ces théories, toute cette littérature sur le rôle, le véritable rôle, le devoir de l'enseignant vis-à-vis de ses élèves, le lecteur se rend compte que ce même Moudou tombe sous le charme d'une de ses élèves, Zahraba. N'est-ce pas un paradoxe, un reniement? Je ne sais pas.
Bon, je dirais non. En me fondant seulement sur les explications que je vous ai données tout à l'heure. Mm-hmm. Quand vous regardez, quand vous lisez les livres, vous constaterez de façon très nette que la manière dont Moudou a vécu avec Zahra, il a vécu sa relation avec Zahra de façon très décente. Il y a une partie du livre dans laquelle je souligne que Zahra, chaque fois qu'il se voyait avec Moudou, c'est Moudou qui se déplaçait pour aller chez elle.
Il refusait en tout cas que
Zahra lui rende visite. J'ai même mentionné que Zahra n'a jamais franchi la porte de sa chambre. Chaque fois qu'il se voyait, c'est Moudou qui se déplaçait, qui allait chez elle. Et
ça, en tout cas, il se faisait le devoir de respecter ça.
Voilà. Mm-hmm. Voilà. Comme je l'ai dit, il avait une corporation à honorer. Et une réputation aussi éthique à défendre. Mm-hmm. Voilà, comme je l'ai décrit, en tout cas, tel que Maud a vécu avec Zahra, moi je ne vois pas de paradoxe. D'après les valeurs que j'ai énumérées et que j'ai soutenues dans ce livre, en tout cas les valeurs qui devraient être celles d'un bon enseignant, je ne vois aucun paradoxe entre ces valeurs-là et l'attitude de Maud vis-à-vis de Zahra.
Il le dira, mon regard sur toi s'est mué et celui que tu portes sur ma personne doit aussi changer. Ça, c'est une invite également à reconsidérer, en tout cas, leur relation.
Oui, effectivement, parce que bon, comme j'ai dit, souvent la relation, l'œil que porte un élève sur son enseignant, c'est un regard très particulier. Un regard très particulier. Mais Moudou, quand il s'est rendu compte qu'il a eu des sentiments, ou bien qu'il commence à avoir des sentiments envers son ancien élève, il l'invite à le regarder de notre œil pour qu'il puisse vraiment lui exprimer tous ses sentiments et vivre pleinement leur amour.
Certes, l'enseignant demeure toujours un abîme aux yeux de ses épigones, au vu de la relation qui les lie, mais il n'en est pas moins une personne sociale. C'est Maudu qui explique toujours hein, une personne normale avec un cœur qui aime et des désirs aussi complexes que ceux de ses élèves. Là, il se justifie.
Oui, il se justifie tout naturellement. Il se justifie tout naturellement parce que, comme je l'ai expliqué dans le livre, quand un enseignant déclare sa flamme à une de ses élèves, ou bien en tout cas à son ancien élève comme Zahra, pour Maudu, ça peut paraître très bizarre. Ça paraît très bizarre à l'élève, avec le regard qu'il portait sur son enseignant. Mais Maudu, il s'explique et se défend en lui montrant que non, avant d'être enseignant, je suis une personne normale, avec un cœur comme vous, des désirs, des passions, j'aime, j'apprécie et je déprécie. Je peux tomber amoureux de n'importe qui, comme je suis tombé amoureux de toi, ce qui est tout à fait normal. Il est en train de lui expliquer que le fait que je tombe amoureux de toi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, comme le pensent beaucoup de gens.
Et là, il s'en prend à la société, avec sa manière dont, cette dernière, hein, la société conçoit la relation élève-enseignant qui est féodale à bien des égards et se doit d'être reconsidérée. Pour lui, il n'y a rien de plus normal qu'un enseignant tombe amoureux de son élève. C'est dans l'ordre normal des choses. Comment croire maintenant à ces propos quand on sait que souvent c'est un terrain glissant, ces relations élève-enseignant? Parce que souvent, ça finit dans les pages faits divers des journaux.
Oui, ça, malheureusement c'est cette mauvaise conception que la société a de ces relations. Il faudrait partir d'un postulat réel. Quel postulat? Que l'enseignant est un être. C'est un être humain, très normal. Il n'est pas né enseignant. Il est devenu enseignant. Il devient enseignant. Et avant d'être enseignant, c'est une personne, je le dis et je le répète, avec un cœur, des désirs. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de plus normal qu'un enseignant tombe amoureux de son élève. Mais bon, comme vous avez dit, c'est un terrain glissant. Et Maudu, dans le livre, il a payer un lourd tribut.
On va y revenir. Oui. Alors, là où on en parle en s'intéressant également à ces relations entre Aminata et Ngor, deux amis qui se plaisaient et s'identifiaient l'un à l'autre, mais malheureusement, il y a cette réalité sénégalaise, cette barrière raciale, sociétale, les problèmes de caste pour s'opposer à des unions. Votre livre également met en exergue cet aspect très important dans nos relations d'aujourd'hui, même si on le sait, à la fin du livre, on va le découvrir, Aminata et Ngor vont finir par se marier.
Effectivement, j'ai profité de cette histoire entre Ngor et Aminata pour tirer, je vais utiliser ce mot, pour tirer sur ces considérations moyenâgeuses que la société a du mariage. Nous avons souvent à fonder le mariage sur des considérations autres que l'amour et la religion, peut-être. Et pour moi, le seul fondement, la seule chose sur laquelle devrait reposer une union telle que le mariage, c'est l'amour réciproque entre les deux personnes concernées. Malheureusement, il y a des réalités sociales, culturelles, qui font que parfois, il y a des unions qui sont empêchées, ou bien, en tout cas, même si elles ont lieu, souvent, les deux partenaires ont du mal à vivre de façon heureuse, ou bien souvent la partenaire, la femme, a du mal à se greffer à la famille.
Et dans ce cas précis, il y a la parole déjà donnée par Dibor, la maman de Ngor. Ça également, c'est important.
Oui, c'est important, mais oui, je l'ai donné, j'ai fait exprès.
Le respect de la parole
donnée. Le respect de la parole donnée. Mais Dibor, c'est la maman de Ngor. Est-ce à Dibor de donner sa parole à l'insu de Ngor, la personne qui est la principale concernée? C'est Ngor qui devrait se marier. Et je l'ai dit, le choix de son épouse, le choix de celui avec qui on devrait partager sa vie, est une prérogative personnelle dont chacun doit disposer. Chacun doit disposer de la possibilité et de la prérogative exclusive de choisir la personne avec qui on veut partager sa vie. L'erreur que la maman de Ngor a commise, c'est d'avoir donné sa parole à son frère Diegan, sans avoir préalablement consulté son fils Ngor.
Voilà. Autre problème, c'est la déclaration d'amour qu'il doit le faire en premier. Pour Aminata, en tout cas, il fallait franchir beaucoup de caps, des barrières, des préjugés qui veulent que la femme avoue ses sentiments à un homme. Et elle en a souffert également.
Oui, elle en a souffert. Ça aussi, c'est une réalité sociale, comme en tout cas beaucoup de sujets qui sont traités dans le livre. Ce sont des réalités sociales, des choses que nous vivons, des réalités purement sénégalaises. Il est mal conçu dans notre société qu'une femme puisse aller vers un homme et lui déclarer sa flamme. Et je ne vois pas de mal en ça. Quand une femme a des sentiments pour un homme peut aller déclarer sa flamme
mais
à une femme.
Mais c'est mal perçu. C'est
mal perçu. C'est pourquoi j'ai fait exprès, en tout cas, dans cette relation entre Ngor et Aminata, de faire, en tout cas, le scénario de telle sorte que c'est Aminata qui va aller vers Ngor pour lui déclarer sa flamme. Ça, je l'ai fait exprès pour montrer que comme un homme peut déclarer sa flamme à une femme, de la même façon, la femme peut le faire, peut aller déclarer sa flamme à un homme.
Et Aminata le dira, exprimer son amour est une forme de grandeur et l'expression d'une certaine liberté. Elle s'affranchit alors de ce fardeau psychologique que la mauvaise conception de l'amour par la société a fini de faire porter à presque toutes les femmes.
Effectivement, elle a ramé à contre-courant en adoptant une posture qui n'était pas du tout connue dans sa société. Et bon, heureusement, elle a rencontré un homme qui a su la comprendre, qui a su prendre la chose avec philosophie, en la considérant comme une fille facile comme pourraient le faire beaucoup d'autres gens.
Alors, dans ce livre également, il y a des comparaisons. Par exemple, celle-là, somme toute osée entre l'amitié et l'amour. Contrairement à l'amour, dites-vous, l'amitié résiste aux épreuves de la vie et à la distance. Les aléas de la vie et de la distance qui peuvent séparer les deux êtres concernés érodent l'amour, l'effritent et le rendent très vulnérable à la moindre incompréhension. En amitié, dites-vous, les malentendus ne sont que constructifs et contre à fortifier cet amour d'une autre dimension qui lie les amis, alors que la moindre parole d'humeur peut anéantir un amour bâti pendant une longue durée.
Ça, c'est une sorte d'étude comparative que j'ai bien voulu faire entre ces deux types de relations analogiques, d'une certaine façon, mais qui sont tout à fait différentes. J'ai voulu montrer la prééminence, ou bien la prééminence que l'amitié a sur l'amour. Pour moi, je considère les relations amicales, en tout cas l'amitié, une amitié sincère, une véritable amitié, elle transcende et elle est plus forte que l'amour charnel qu'un homme peut éprouver envers une femme.
Et vous l'avez rappelé tantôt, le père de Modou décédera au village alors qu'il était encore à l'université. Il apprend la mort subite de son papa. C'était alors la course contre la montre pour pouvoir assister à son enterrement. Mais malheureusement, il n'y assistera pas. Il va manquer cet événement ô combien important pour lui. Comme ça, dans nos sociétés, c'est si important d'assister à l'enterrement de ses parents.
Oui, c'est très important. C'est souvent ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, cela constitue pour eux une pilule qu'ils ne vont jamais avaler. Voilà, ça va le rester à travers la gorge pendant une éternité. C'est très important. Bon, ça aussi, c'est culturel, je peux dire. C'est culturel, mais ça dépend aussi en grande partie de la relation qui existait entre le défunt, le parent et son enfant. Et quand vous lisez le livre, vous vous rendrez compte de façon très facile qu'il y avait une certaine affinité entre le défunt papa Alioune et son enfant Modou. C'est ce qui explique vraiment tout sa malheur, toute cette peine que Maud a ressentie de ne pas pouvoir assister à l'enterrement de son papa.
Et là également, il s'insurge contre cet empressement-là à enterrer les morts dans cette société.
Voilà aussi, c'est une réalité religieuse qu'il faut accepter. Comme je l'ai bien dit dans le livre, c'est une réalité religieuse parce que l'islam nous recommande d'enterrer les morts de la façon la plus...
Mais lui, il a une explication. Et comme le pense le narrateur, cette peur qu'engendre la dépouille d'une personne repose moins sur le cadavre inerte et inoffensif que sur le fait qu'elle rappelle et représente l'amour.
Voilà, dans ce cas précis, que le décès du papa de Mourou, il y a deux facteurs qui ont pesé. Tel que je l'ai exprimé dans le livre, il y a deux facteurs qui ont expliqué cet empressement pour enterrer la dépouille du papa de Mourou. D'abord, il y a l'explication religieuse, c'est-à-dire cette recommandation de la part de la religion qui nous dit que quand quelqu'un est décédé, dans les plus brefs délais, il faut l'enterrer. L'autre, c'est, j'ai voulu un peu parler de la mort, c'est-à-dire cette peur bleue que les gens ont de la mort. Je disais que ce que la peur qu'inspire une dépouille repose plus sur le fait qu'il nous rappelle la mort que sur la dépouille inerte qui est là, inactive, qui ne peut rien faire. Mais souvent, quand quelqu'un est décédé, vous rendez facilement compte que voilà, les gens ont souvent... Ils font montre d'une peur extraordinaire.
Il faut très vite se débarrasser du...
Il faut très vite se débarrasser de la dépouille. Parce que ça nous rappelle la présence réelle et permanente de la mort aux alentours de notre vie.
Alors, outre les valeurs que constituent l'amitié, la fraternité, nous retrouvons... En tout cas, dans ce roman, le dialogue entre cultures, le dialogue entre religions, le dialogue islamo-chrétien, cette volonté de vie commune incarnée par une ethnie du Sénégalais serrère, incarnée dans ce roman, en tout cas par le personnage de Albert Abdoulaye Sen. Parlez-nous de cette rencontre. De
oui, c'est une rencontre très, très fortuite, très anodine, je pourrais dire ainsi. En tout cas, comme presque toutes les relations amicales. Souvent, quand vous regardez deux amis, deux personnes qui nouent une relation amicale très sincère, souvent, quand vous leur demandez où ils sont connus, souvent, c'est de façon très, très anodine. Mourou, en allant aux funérailles de son papa, a rencontré le quinquagénaire Albert Abdoulaye Sen dans la voiture, dans le car qu'il avait pris. Et voilà, ils ont fait connaissance. Maintenant, cette cohabitation, cette acceptation mutuelle qu'il devrait y avoir entre les individus d'une même communauté, ça c'est mon appréciation de la vie. Pour moi, des individus d'une même communauté, on doit être en mesure de vivre en parfaite harmonie, tout en permettant à chacun, à chaque personne de garder, de vivre pleinement sa religion, sa culture, et voilà, c'est en tout cas ses croyances.
En tout cas, c'est ça. Albert, un fervent catholique et Mourou, un musulman qui tenait beaucoup au moindre précepte de la religion, de sa religion d'islam, il faudra inéluctablement, dites-vous, exercer nos différences tout en veillant à l'intangibilité, à l'essence humaine au cœur de nos actions et de nos interactions.
Voilà, ce qui nous unisse, en tout cas les facteurs qui nous unissent sont beaucoup plus importants que les facteurs qui pourraient nous diviser. Voilà, nous avons beaucoup plus de points d'ancrage que de points d'achoppement. Pour moi, on devrait plus nous s'apesantir sur ces points d'ancrage que sur les points d'achoppement qui pourraient constituer en tout cas des facteurs de division au sein des membres d'une même communauté. C'est ce que j'ai voulu décrire à travers cette relation entre Mourou et Albert Abdoulaye Sen.
Je l'ai rappelé tantôt, malheureusement Mourou n'assistera pas à l'enterrement de son papa. Des pannes répétitives du bus en route feront que Mourou ne va pas assister à cet enterrement de son cher papa. Alors, le regard fixe vers le ciel comme pour contempler l'éternel mouvement des nuages, les yeux inondés, la pensée complètement détachée du corps et sa voix intérieure commença à s'adresser à son défunt papa en ces termes. Nous sommes à la page 116.
Papa, je vous apostrophe et vous mets en exergue pour faire honneur à la place ô combien importante que tu as occupée dans ma vie. Une place qui sera désormais éternellement vide. Je ne doute pas un seul instant que ton âme m'entend et me comprend. Je tiens à te dire que c'est la seule et unique fois de ma vie que je me trouve dans une situation où je ne peux pas compter sur toi pour voir le bout du tunnel. Ta présence à mes côtés fut importante et l'aurait été encore plus aujourd'hui. Le destin a décidé de me priver de ton être de la façon la plus surprenante qui soit. Je n'ai jamais cessé et je ne cesserai jamais de me demander comment ce fut possible que tu sois parti sans crier gare. J'aurais bien aimé pouvoir t'adresser un dernier message de remerciement et recueillir aussi certainement tes dernières leçons de vie. Tu n'as jamais cessé de m'en donner pour que je m'en serve comme viatique dans ce voyage terrestre dont les péripéties sont parfois aussi imprévisibles que douloureuses. Papa, tu m'as toujours dit que personne n'est éternel et que ton souhait était de partir bien avant nous. Allah le Très-Haut a exaucé ce vœu tout en laissant le mien sans satisfaction. J'avais toujours souhaité réussir dans la vie et te combler de bonheur. L'arbre que je suis et que tu as planté et arrosé aurait bien aimé te donner le plaisir de voir ses fleurs, de te protéger du soleil par son ombre et enfin te gaver de ses fruits que tu aurais bien mérité. Papa, je sais que tu seras bientôt mis sous terre et définitivement arraché à notre affection et à notre vue, mais sache que tu ne sortiras jamais de nos cœurs. Tu y seras pour toujours, car par ton attitude, ta responsabilité, ton amour pour nous, tu t'es fait dans nos cœurs une place que seul toi peux occuper. La vie est parfois féroce et sans pitié. Elle surprend et heurte. Je suis surpris, heurté, bouleversé. Et l'être sur lequel je devais m'adosser a servi de moins pour cette affliction. Tu pars à jamais et me laisses seul. Mais sache que je ne t'oublierai jamais. Je ne pourrai même pas t'oublier car tu as vécu d'une façon à rester éternellement présent dans ma vie. Du fait de ton amour, tes sacrifices et tes leçons de vie. Pars avec la plénitude de ma reconnaissance, car si je devais avoir une seule chose pour laquelle je devais t'en vouloir, ce serait d'être parti sur la pointe des pieds, sans même me permettre de te faire mes adieux. J'aurais bien aimé vider le contenu de mon cœur avec l'exactitude que requiert la portée de son message, mais les circonstances ne me le permettent pas. À bientôt, papa.
Voilà. Ça montre, en tout cas, ces relations sont fortes entre papa, père et fils.
Ce sont des relations très fortes que l'on peut lire à travers ce monologue intérieur de Modou. Cela donne aussi de l'affinité dont je parlais tout à l'heure, qu'il y avait cet approchement qu'il y avait entre Modou et son père. Il avait du mal à croire qu'il n'assisterait pas à l'enterrement de son papa, tellement ce dernier lui était cher. Son papa lui était très cher et il était très fier, quand vous lisez à travers ces lignes, il était très fier et très content de l'éducation que son papa lui a donnée.
Justement, c'est vraiment après la disparition de ce dernier qu'il a su qui était vraiment son père, un homme digne qui a su inculquer des valeurs à sa progéniture.
Voilà, là aussi c'est la force et l'importance de l'éducation dont je parlais tout à l'heure. Une éducation qu'un parent doit donner à ses enfants, c'est une éducation dont ces derniers vont se servir tout au long de leur vie. C'est pas une éducation dont ils se souviennent seulement en voyant leurs parents, mais une éducation qui leur servira de viatique dans leur vie et dont ils feront toujours usage dans toutes les circonstances de la vie, en tout cas.
En tout cas, le père est très conscient de cette tâche-là. Disait, être parent n'est pas chose facile. C'est plus un sacerdoce qu'un cadeau que Dieu nous fait. C'est une tâche qui requiert du tact, de la vigilance, mais aussi de la responsabilité et de la fermeté. C'est ce que j'appellerais, en tout cas, la méthode de la carotte et du bâton.
Effectivement. Être parent, c'est un cadeau, certes. C'est une chance d'avoir des enfants, mais c'est plus un sacerdoce qu'un cadeau que Dieu nous fait. Parce que quand on a des enfants, il y a un monde que l'on crée autour de nous. Et nous devons faire preuve de responsabilité, de vigilance surtout. Et surtout de vigilance dans cette société, surtout en perpétuelle mutation, avec beaucoup de facteurs exogènes qui peuvent impacter sur l'éducation de nos enfants. C'est ce que j'ai voulu montrer à travers ce passage, pour dire que, pour interpeller leurs parents, les parents en tout cas, de façon générale, pour leur dire que, quand on est parent, certes c'est une chance, mais à travers cette chance, il y a une forte interpellation. Une interpellation en quoi ? À plus de responsabilité, à plus de vigilance pour que nos enfants ne tombent pas, en tout cas, à la dérive et qu'ils ne soient pas laissés à la merci des autres personnes qui vont les influencer.
Et ce discours très fort, le vieux Alioune le tiendra jusqu'à son dernier souffle, la veille de son rappel à Dieu.
C'est pour montrer que le vieux Alioune, c'est quelqu'un qui tenait beaucoup à l'éducation de ses enfants. il ne ratait jamais l'occasion, en tout cas le personnage Aliou, il n'a jamais raté l'occasion de tenir à ses enfants un discours qui va leur permettre d'aller à l'assaut de la vie, de bien se comporter avec les gens, en tout cas d'avoir une bonne éducation. Ce sont des leçons de vie, telles que l'a dit Modou dans son monologue.
Alors, Modou qui perd son papa, son père, ensuite c'est la perte de son amante Zahra Ba, la douce Zahra, hélas qui n'était pas celle qu'il avait toujours cru qu'elle était ça. Nous allons laisser aux éditeurs le soin de lire ce roman pour découvrir ce qu'il en est exactement. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu. En fait, sur ce caractère lugubre, sombre de l'homme, de l'être.
Oui, ça c'est
comme la... disent les Wolof, Nitelundum.
Effectivement, ça c'est la complexité de l'être humain. Et Modou, tout au long de cette année pendant laquelle il a travaillé avec Zahra, il l'a eu en classe, il l'a toujours considéré comme une personne extraordinaire. Mm-hmm. Il avait même du mal à la regarder. Et dans le roman, le narrateur dit que Modou avait constaté que Zahra était une personne pudique, une fille pudique qui le regardait à peine. Mais malheureusement, quand il a vécu avec elle, en tout cas, l'aboutissement de leur relation montre combien l'individu, l'être humain est complexe. L'individu est un abîme qu'on ne pourra jamais percer. On aura beau pouvoir espérer ou bien en tout cas croire connaître la personne. Mm-hmm. Chaque jour, on peut en tout cas du jour au lendemain découvrir une facette très surprenante de la personne. Et comme je l'ai bien dit dans une partie, Modou prenait Zahra comme une Pénélope, une personne vraiment d'une fidélité extraordinaire et d'une pudeur légendaire. Malheureusement, ce qui va advenir va démontrer tout à fait le contraire.
Et à côté de Zahra, il y a Toulaï, ancienne amante de Modou dans les années universitaires également. Toulaï, victime de la tradition qui avait épousé un cousin qu'elle n'aimait pas. Elle l'a dit, mais l'histoire nous renseigne que malgré ce mariage forcé, Toulaï et Modou s'aiment toujours. Alors, comme quelqu'un à qui on donne une bouée de sauvetage dans une vaste étendue d'eau trouble où il a déjà perdu pied, Modou ne tarda pas à répondre à Toulaï. Est-ce qu'ils vont se marier? C'est en tout cas par ces interrogations que se termine cet excellent roman. Alors, à quand la suite?
La suite de cette histoire,
Est-ce qu'il y aura une suite à cette histoire?
Oui, il pourrait bien y avoir une suite à cette histoire. Mais j'aimerais un peu revenir sur ça.
Toulaï et...
Sur le retour de Toulaï.
Dans la vie de Modou.
Dans la vie de Modou. J'ai créé ce scénario pour montrer la force de l'amour. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du mariage, il y a une et seule considération qui doit prévaloir, c'est l'amour réciproque qu'il y a entre les deux partenaires. Toulaï s'était marié, je ne dirais pas qu'elle s'était mariée, en tout cas, on l'avait forcée à se marier à un cousin qu'elle n'aimait pas du tout. En tout cas, elle était prédestinée à se marier avec ce cousin-là. Et malgré 2 années de mariage, leur mariage n'a jamais été consommé.
Ça, c'est vrai.
Oui, elle a fini par revenir vers Modou, la personne qu'elle aime.
Mais Modou aura du mal à croire à ça,
oui,
à cette histoire-là.
Effectivement, ça, c'est la force de l'amour. C'est la force de l'amour. J'ai voulu montrer la force de l'amour, bien en tout cas la prééminence de l'amour sur certaines considérations culturelles. Toulaï s'était vu forcée à se marier avec un cousin qu'elle n'aimait pas. Elle a fait 2 ans avec ce cousin-là sans consommer le mariage. Elle finira par revenir vers Modou. Ngor, sa maman l'avait voulu le forcer à se marier à une de ses cousines. Il a refusé. Il a refusé pour se marier avec la personne qu'il aime, Aminata. Ça, c'est la force de l'amour, la seule et unique chose qui doit prévaloir dans un mariage. Et il y a aussi la force de l'espoir. Toulaï, malgré les 2 ans qu'elle a fait avec son ex-mari, elle n'a jamais perdu espoir qu'elle retrouverait un jour la personne qu'elle aime, Modou. Et en revenant, quand il l'a appelé, ce qu'il lui a dit, c'est que... je ne me soucie pas de ta situation matrimoniale. Que tu sois marié ou célibataire, tout ce que je voudrais est de me marier avec vous parce que vous êtes la personne que j'aime. Ça, je voulais montrer la force de l'amour et la prééminence que l'amour a sur certaines considérations.
Et quelle est la part de tout biographique dans ce roman-là? si elle existe.
Oui, la part d'autobiographie, je dirais, oui, ça existe, mais pas tout à fait.
Pas à 100%.
Oui, pas à 100%. Okay. Oui, en tout cas, on pose souvent cette question. Je dis que ce n'est pas une autobiographie. Ça, je le dis de façon très catégorique. Ce livre, ce roman, n'est pas une autobiographie. Mais souvent, en écrivant, bon, l'écriture romanesque, c'est une imagination. Mais souvent, on peut partir d'histoires réelles, en y ajoutant en tout cas des choses imaginaires pour faire un roman. Par exemple, le rappel à Dieu du papa de Modou, ça, je peux dire que c'est quelque chose que, bon, que moi j'ai vécu.
C'est votre histoire.
Pas tout à fait. Pas tout à fait. En tout cas, je l'ai vécu. Okay. Au début, en tout cas, Modou a fini ses examens deuxième année, on lui a annoncé le rappel à Dieu de son papa. Je l'ai vécu comme ça. Mais en allant, par exemple, à l'enterrement de son papa, c'est tout à fait différent de la manière dont moi je l'ai vécu.
Vous l'avez vécu.
Exemple, je n'ai jamais rencontré une personne qui s'appelle Albert Abdoulaye Sen. Donc, je ne dirais pas que c'est une autobiographie, mais comme je me suis inspiré
de faits réels,
en tout cas, pour en ajouter d'autres histoires imaginaires pour faire
ça. Et qu'en est-il de la promotion de votre roman?
Oui, pour la promotion du roman, j'ai prévu de faire une série de présentations dans différentes localités. Mm-hmm. Malheureusement, il y a les vacances qui viennent avec cette situation
sanitaire
très tendue qui ne favorise pas en tout cas les rassemblements et autres. Il y a déjà eu la cérémonie de dédicace qui a eu lieu le 23 juillet passé à Médecins Savoir. Bon, au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a une série de présentations qui est prévue, de quoi dans différentes localités, peut-être Inch'Allah à la rentrée prochaine.
Et qu'est-ce que ça vous rapporte, l'écriture, Monsieur Amadou?
L'écriture, le plaisir. Tout ce que je cherche, le plaisir. Je me contente, en tout cas, j'éprouve beaucoup de plaisir à écrire. Et comme je l'ai dit à une personne, il m'a demandé ce que j'attends de ce livre. Je dis que la seule et unique chose que j'attends de ce livre est que s'il y a au moins une seule personne qui lit ce livre et qui en tire quelque chose de très positif, qui va impacter positivement dans sa vie, ne serait-ce qu'une seule personne, là j'aurai une satisfaction entière.
Et la littérature sénégalaise, comment elle se comporte à votre avis? Dynamique?
Oui, elle est dynamique, elle se comporte bien, les gens écrivent.
Ouais.
Les gens écrivent. Peut-être certains ne le savent pas, mais les gens écrivent.
Ouais.
Malheureusement, il y a souvent peut-être ça manque de l'appui, je peux dire
ainsi,
l'accompagnement. Il y a l'accompagnement qui fait défaut. Il y a l'accompagnement qui fait défaut. La production, elle est très difficile. L'édition, elle est très chère.
Très chère, oui.
Elle est très chère et malheureusement, les gens ne lisent plus comme avant. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plaisir. Écrire et juste avoir l'amour d'écrire et écrire.
C'est presque, voilà. On est presque arrivé au terme de cette édition, votre dernier mot, Charme de Sorna.
Oui, je vous remercie, en tout cas, de m'avoir donné cette opportunité de participer à cette émission, en tout cas, d'être l'invité de cette émission ô combien importante et qu'on a en question. En tant qu'acteur éducatif, en tant qu'enseignant, je ne peux que me réjouir de cette opportunité qui m'est forte pour parler de l'actualité inhérente à l'école et aussi de parler du livre.
En tout cas, à Sous les feux de l'amour, un roman que Radio Sénégal recommande vivement. C'est la fin de ce présent numéro de École en question qui est recevé à M. Amadou Sorna, auteur du roman Sous les feux de l'amour. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mohamed Kadhafi Diakaté, à la mise en onde de coordination de Malik Mboy, Ibrahim Assadi, Babacar Ndiaye, Alpha Seydi. Devant ce micro, Aaron Diouf, École en question revient dans 15 jours. Dans un instant, le retour des informations sur Radio Sénégal.
L'école en question, question d'école.
Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions.
Radio Sénégal International, 92.5, pose les débats.
Le gouvernement, le QCEMS, des parents, des élèves, des ONG, qu'ils discutent, qu'ils règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas, on ne fera pas deux sessions au Sénégal.
L'école en question, question d'école. Radio Sénégal International fait la lumière.